Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, membre du gouvernement et l'un des porte-parole des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation à quelques jours maintenant de la visite du président de la République. Il est attendu lundi soir en Nouvelle-Calédonie. Mais actualité oblige, on va commencer par le remaniement ministériel qui a eu lieu cette nuit pour nous, avec notamment un nouveau ministre en charge des Outre-mer. Il s'agit de Philippe Vigier, qui remplace Jean-François Carenco. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous connaissez Philippe Vigier?
Pas du tout. Donc, je vais être honnête avec vous. Je connais un peu son parcours. Je sais qu'il a fait un rapport sur la défiscalisation. Enfin, en tout cas, il a participé à un rapport sur la défiscalisation outre-mer. Mais je ne le connais pas plus que ça. Donc, je sais qu'il vient avec le président de la République la semaine prochaine. Donc, on aura l'occasion de faire connaissance.
Ce changement, c'est un désaveu tout de même pour Jean-François Carenco, qui est resté un an rue Oudéno.
Ouais, je crois que Jean-François Carenco a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. C'est toujours compliqué les remaniements, mais en tout cas, enfin, moi, je tiens à exprimer ma sympathie pour Jean-François. Enfin, on a travaillé quand même ensemble sur quelques sujets, notamment sur l'énergie, et je doute pas qu'il aura encore d'autres activités par la suite.
De toute façon, le dossier calédonien est géré directement maintenant par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Oui, exactement, mais c'est pour ça que c'est... principale annonce du remaniement, c'est que Gérald Darmanin continue à gérer la Nouvelle-Calédonie, à traiter la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était la chose la plus importante pour nous, parce qu'il s'est impliqué vraiment personnellement ces derniers mois avec plusieurs déplacements, avec des rencontres avec les différents protagonistes. Et il faut du temps pour nous connaître en Nouvelle-Calédonie, donc, et surtout retisser des liens avec les indépendantistes. Je crois que c'est ce qu'il a fait ces derniers mois. Donc c'est très bien que Gérald Darmanin reste. Il a un caractère qui est franc, il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit.
Gérald Darmanin qui vient lui aussi avec le président de la République, tu auras également Sébastien Lecornu. C'est quand même des gens que l'on connaît ici et qui connaissent bien le dossier.
Hein. Ouais, c'est une très grande satisfaction d'avoir Gérald Darmanin qui revient, mais aussi Sébastien Lecornu que tous les Calédoniens ont appris à connaître quand il était ministre de l'Outre-mer, qui a laissé une trace importante en Calédonie, et surtout il revient avec la casquette de ministre des Armées, ce qui est important et qui est un signal sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque le président de la République, et on y reviendra, mais on aura l'occasion de faire des grandes annonces sur l'avenir du territoire. Et le fait que Sébastien Lecornu soit dans les valises du président, c'est un signal important et je pense qu'il y aura des séquences sur l'armée.
Et puis une satisfaction aussi dans ce remaniement, on imagine, le maintien de Sonia Backès au gouvernement, vous n'en doutiez pas?
Non. Pas du tout. Non, je crois que Sonia fait un travail remarquable en tant que membre du gouvernement de la République. J'avais déjà eu l'occasion de dire lors de sa nomination que c'est une vraie fierté pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir une Calédonienne au sein du gouvernement. C'est une fierté et c'est utile, puisque ça fait avancer plus vite certains dossiers. Donc, je suis très fier que Sonia puisse continuer à être au sein du gouvernement et au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron.
Et elle aussi, elle arrive avec le président de la République. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde pour cette visite présidentielle. Globalement, Christopher Gégès, qu'est-ce que vous pensez de ce remaniement? Le maintien d'Elisabeth Borne, finalement, relativement peu de changements. Le président de la République avait donné 100 jours pour une période d'apaisement. Il y a eu au milieu les émeutes urbaines. Est-ce que la réponse qui a été apportée par ce remaniement vous semble à la hauteur des enjeux? On parle au niveau national, là.
Oui, il y a un recentrage quand même aussi sur des profils qui sont beaucoup plus politiques. On voit le fait que Gabriel Attal prenne la place à l'éducation nationale, c'est pour politiser au bon sens du terme la fonction. C'est vrai que c'est pas forcément le remaniement que tout le monde attendait ou beaucoup de choses à échanger qui a une certaine continuité. Je crois que le président de la République a été élu sur un programme, il le met en œuvre. La réforme des retraites, c'était quelque chose qui était annoncé. Et je crois que la feuille de route du gouvernement, encore aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre pourquoi il a été élu. On a beaucoup de défiance vis-à-vis du monde politique. Là, on a un président de la République qui a été élu sur un programme et qui fait ce qu'il dit. Même si ce n'est pas forcément populaire tout le temps, on a au niveau de la métropole un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas. La France qui est depuis plusieurs années consécutivement le pays le plus attractif d'Europe, et ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc moi, je suis très fier de soutenir encore ce gouvernement et je suis sûr que in fine les Français l'auront bien compris.
Alors Emmanuel Macron est attendu, nous le disions, lundi soir en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 2 jours avant de se rendre au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. qu'est-ce qu'il faut attendre de ce voyage? Et puis la première question, c'est pourquoi maintenant? On entend beaucoup de gens dire, mais il va y avoir des discussions trilatérales le mois d'août. Est-ce que c'est le moment que le président de la République vienne parler en Nouvelle-Calédonie?
Il y a une chose déjà que nous, on attend enfin, au niveau des loyalistes. On a beau soutenir le président de la République, accompagner ce gouvernement, ça ne nous empêche pas de passer des messages sur les attentes qu'on a. Et les Calédoniens se sont exprimés par trois fois en disant non à l'indépendance. Le président de la République, le soir même du référendum, a dit la Nouvelle-Calédonie est française et la Nouvelle-Calédonie restera française parce que les Calédoniens ont fait le choix d'y rester. Maintenant, on n'attend pas de dire qu'il y ait des nouveaux transferts de compétences ou des choses comme ça. On attend du président de la République, c'est quoi le projet de la Nouvelle-Calédonie dans la France? C'est quoi la place de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République? Comment la Nouvelle-Calédonie sert le dessein national sur ces différents points? Enfin, je pense à France 2030, qui est la stratégie élaborée par le président de la République sur la décarbonation de l'industrie. Je pense que la Calédonie a quand même un rôle à jouer. Sur la place géostratégique au niveau numérique dans la zone, la Calédonie a un rôle à jouer. Sur les grands fonds, la Calédonie a un rôle à jouer. Sur l'autonomie alimentaire, on a des choses à proposer. Donc, je pense que la Calédonie, et c'est ce qu'on propose au niveau des loyalistes, que la Calédonie serve à la France plutôt que d'être un boulet de ces dernières années où la Calédonie était plus un problème qu'une solution. On veut être une solution et je crois que le président de la République est là pour le dire. Il vient en juillet avant les discussions également institutionnelles parce qu'il y a une bonne répartition des choses, je pense. Gérald Darmanin fait un travail extrêmement important et de manière brillante ces derniers mois. Le président est là aujourd'hui pour donner de la hauteur au projet de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République.
Parce que justement, bon, Horizon 2030, c'est bien, mais on a des échéances qui sont plus courtes. Les provinciales en mai 2024, la nécessité d'avoir changer le corps électoral, ouvert le corps électoral d'ici là, et puis ce projet de statut qui traîne. On a cru comprendre que le chef de l'État souhaitait aujourd'hui un accord global qui intègre tout, plutôt qu'un petit accord et un grand accord comme ça avait été envisagé un temps par Gérald Darmanin. Vous attendez des réponses précises sur ce point-là, des annonces fortes éventuellement de la part d'Emmanuel Macron?
Oui, nous aussi. Enfin, ensuite, on a déjà eu des annonces fortes de la part de Gérald Darmanin. Quand Gérald Darmanin dit, et les Calédoniens ont tendance parfois à l'oublier, quand le ministre de l'Intérieur, troisième personnalité du gouvernement de la République, dit « Ici, en Calédonie, c'est la France », les élections se tiendront à l'heure et les élections se tiendront avec un corps électoral qui est ouvert. Et s'il y a un jour un choix d'autodétermination, il se le fera le plus tard possible et de manière la plus complexe possible en interrogeant les Calédoniens. Donc c'est déjà des annonces fortes. Ensuite, il y a la question du corps électoral. Gérald Darmanin a proposé 7 ans. Les indépendantistes ont dit 10. Nous, on dit 3. La question de 7 ou 10 ans, ça ne nous va pas. Donc ça nous permet aussi de le dire au chef de l'État que le dégel du corps électoral, il doit se faire et pas il ne doit pas se faire sur une période de 7 ou 10 ans.
Je vais sur cette question sensible, clivante du corps électoral. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va se livrer à des annonces sur ce sujet ou qu'il va laisser le dossier être traité par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer?
Non, je pense que c'est un sujet qu'il va aborder lors de son discours. Et c'est pour ça, il faut vraiment que tous les Calédoniens puissent participer à ce discours qui aura lieu Place de la Paix mercredi après-midi, mercredi 26 après-midi, parce qu'il y aura des annonces fortes qui seront faites. Il ne va peut-être pas rentrer dans le détail de 3, 7, 10 ans. Il va projeter la Calédonie dans un temps long, et projeter la Calédonie dans un temps long, c'est permettre d'avoir une Calédonie qui est ouverte, une Calédonie qui accueille, une Calédonie qui arrête d'exclure des personnes qui veulent s'investir profondément dans ce pays. Et donc, rien de mieux que le président de la République pour projeter la Calédonie et de dire que cette Calédonie française est ouverte au reste de la nation.
Sur le futur statut lui-même, sur la réforme des institutions proprement dites, est-ce que le président de la République, là aussi, va donner des pistes? Est-ce que vous attendez que ce soit un peu lui qui donne les grandes lignes,
non,
qui tienne la plume d'une certaine manière?
Non, je pense que le président de la République, il donne le cap. La réforme des institutions, c'est quelque chose qu'on demande. J'avais eu l'occasion de venir sur ce plateau déjà, et d'autres responsables, Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, des loyalistes, ont eu l'occasion de le dire. La question du dégel du corps électoral ne peut pas constituer le seul point de l'accord de sortie. C'est important, c'est essentiel, mais c'est normal le corps électoral doit être réouvert. C'est une question qui est normale et c'est certainement pas une concession qui est faite par les indépendantistes. Par contre, les institutions doivent être réformées. On ne peut pas avoir un élu de la province Nord qui vaut plus qu'un élu de la province Sud, un élu de la province des Îles qui vaut plus qu'un élu de la province Sud. Il faut rétablir tout ça, il faut remettre de l'équité et il faut arrêter d'avoir une clé de répartition qui aujourd'hui appauvrit la province Sud et qui met l'ensemble des collectivités en difficulté parce que ce qui a été décidé il y a 20 ans, c'est normal que 20 ans plus tard, ça ne marche plus.
C'est les choses que vous demanderez quand vous le rencontrerez au président de la République, que vous mettrez sur la table dès cette visite.
Oui, on a une séquence avec ce qu'il a appelé les parties prenantes des discussions de sortie. Donc, je me félicite qu'il y ait cette séquence politique. C'est des choses qu'on abordera avec lui. Mais vous savez, on a ces discussions avec Gérald Darmanin, on a ces discussions avec les différents responsables de l'État. C'est des sujets qu'on va aborder avec le président de la République. Mais je le redis, le président de la République est là pour mettre un cap. Et il est là pour mettre un cap de dire c'est quoi la Nouvelle-Calédonie française pour les décennies qui viennent. Les Calédoniens ont fait le choix de maintenir la Calédonie dans la France. Comment la France, aujourd'hui, considère la Nouvelle-Calédonie dans son projet? Et je pense que ça intéressera même les indépendantistes. Parce que je sais qu'il y a des indépendantistes qui disent « Ok, il y a eu ces référendums, comment la France nous considère aujourd'hui ?» Et donc, il faut que le président de la République dise ça et nous donne cette place. Je vais vous prendre une question sur le nickel. On peut avoir une stratégie nickel qui est purement calédonienne, et on se fait ça entre nous, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, le nickel, c'est un élément stratégique dans la transition énergétique notamment. Il faut que ça soit à la fois dans la stratégie nationale et dans la stratégie européenne. J'ai reçu un courrier de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances hier, qui indique cette stratégie partagée avec le gouvernement de la République. Donc c'est une très bonne chose et je crois qu'on a un bel avenir devant nous.
On y reviendra dans un instant, mais je vais rester sur le côté purement avenir institutionnel, si on peut dire. Est-ce que la présence du président de la République va, selon vous, débloquer les choses sur l'avenir? On sait que les choses ont un peu avancé, on sait qu'il est prévu des trilatérales à la fin du mois d'août. Les indépendantistes ne sont pas encore dit clairement qu'ils y participeraient. Est-ce que la présence d'Emmanuel Macron peut les inciter? Est-ce que lui, il va trouver les mots, les moyens de les ramener autour de la table?
Oui, j'espère, parce que je pense que les indépendantistes respectent le chef de l'État. Enfin, ça a toujours été le cas. Je crois qu'ils ont accepté de participer à la séquence partie prenante qui aura lieu mercredi matin. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut débloquer les choses, je pense que c'est le président de la République.
Même quand on entend les propos des indépendantistes, c'est un étang qui ne semble pas avoir vraiment changé de position pour l'instant. Ils ont souhaité, Gilbert Huennon a souhaité qu'Emmanuel Macron soit le héros de la décolonisation.
Pourquoi on est encore colonisé? Enfin, moi, je pose la question à Gilbert Huennon. Hein. Enfin, quand on a un président du gouvernement qui est indépendantiste, un président du Congrès qui est indépendantiste, deux provinces sur trois et en province des Îles, il y a zéro loyaliste, ils considèrent encore qu'on est colonisé en Nouvelle-Calédonie? Non, les Calédoniens, ils ont choisi de ne plus être colonisés, ils ont choisi de faire un destin au sein de la République avec la Nouvelle-Calédonie, et c'était une fin de la colonisation. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, n'est plus colonisée. Donc, Gilbert Huennon peut espérer tout ce qu'il veut de la part du président de la République comme héros de la décolonisation. Ça ne sera pas le héros de l'indépendance. Ça, c'est clair.
Mais voyez bien qu'ils n'avancent pas vraiment dans leur position la volonté de transférer les compétences régaliennes. Qu'est-ce qui peut les faire bouger, à votre avis? Qu'est-ce qui peut être décisif? Est-ce que le chef de l'État, de son côté, est-ce qu'il va s'adresser aussi à eux directement et sous quelle forme?
Oui, je pense que le chef de... Enfin, je vais pas être le porte-parole du président de la République et je ne sais pas ce qu'il va leur dire à ce moment-là, mais je pense qu'il respecte la fonction, il respecte l'homme, il a toujours été clair avec eux en permanence. Ensuite, les indépendantistes, il faut qu'ils changent de braquet. Enfin, c'est qu'ils soient indépendantistes et qu'ils disent qu'ils sont indépendantistes, très bien. Mais il y a un moment, je pense que même leur population, et on a l'occasion, quand j'ai fait le tour de Calédonie récemment pour l'énergie et de discuter sur la côte Est dans le Nord, dans les îles, on voit des gens qui sont indépendantistes et je respecte ce choix. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais les Calédoniens se sont exprimés par trois fois pour rester au sein de la République avec quelques boulets au pied en matière de corps électoral. Je crois que peu importe les sensibilités, mais même leur électorat souhaite qu'on avance dans ce pays, qu'on donne du travail, qu'on fasse baisser le coût de la vie. Et je pense que le président de la République sera en capacité de leur dire un certain nombre de choses, mais en face à face.
Même quand il leur demande, quand il lui demande des réparations, un geste mémoriel, ça ne semble pas être d'actualité dans cette visite, dans ce voyage. Hein.
Non, enfin, je ne sais pas quelle réparation aujourd'hui. Enfin, la France apporte beaucoup en Nouvelle-Calédonie et quand le président du gouvernement va demander des subventions à l'État français, je pense que l'État déjà, donne déjà énormément en Calédonie. Et quand la Nouvelle-Calédonie est en cessation de paiement annoncée par membre du gouvernement indépendantiste, quand la CLR, on en parlait ce matin, enfin, vous en parliez ce matin, est en forte difficulté, quand le RUAM est en très forte difficulté, quand la SLN est en très très grande difficulté, quand l'usine du Nord, le symbole des indépendantistes, est en très grande difficulté et fait appel à l'État pour changer les choses, je crois que les indépendantistes devraient mettre leurs revendications d'indépendance un peu de côté et se concentrer sur les vrais sujets.
Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de la part du chef de l'État dans ce domaine économique et financier? Plusieurs aspects, hein. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il pourrait apporter des éléments. On sait que le président du gouvernement, Louis Mapou, a sollicité l'aide financière de l'État au mois d'avril ou de mai. Il n'a pas de réponse pour l'instant. Est-ce que le président de la République pourrait lui répondre à l'occasion de cette visite?
Enfin, c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Enfin, on attend que les indépendantistes se mettent autour de la table pour avoir une réponse de la part de l'État. On ne peut pas agiter le drapeau de l'indépendance et dire qu'on est indépendantiste et aller demander 13 milliards à l'État pour boucler son budget. Il y a un moment, il faut être cohérent, mais ça concerne les indépendantistes. Si... pour le moment, j'ai une petite déception sur le programme du président, parce que, enfin, on peut soutenir le président de la République et parfois avoir des questionnements sur des sujets, mais il manque une séquence économique pour le moment. Il manque une séquence économique avec les acteurs économiques, parce que les Calédoniens et les entreprises calédoniennes sont en attente de propositions et d'actes de la part du chef de l'État. Je crois qu'une séquence économique se dessine, je l'espère. Mais je sais qu'il y aura des annonces économiques qui seront extrêmement fortes dans le discours du président et qui correspondent à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une Calédonie qui sert à quelque chose dans le projet national. Je sais que le président de la République, et j'espère encore plus que le président de la République, là ça me concerne directement, fasse des annonces fortes sur la question de la transition énergétique dans le secteur du nickel. Je crois que le président est le mieux placé pour faire ces annonces et donc on a souhaité que ça puisse être engagé. Il y a des grands investissements d'avenir qu'on a souhaité demander à l'État, notamment en matière de sécurisation routière, en matière de transition pour l'économie calédonienne. Donc l'économie ne sera pas oubliée dans le discours du président. On espère juste que dans le programme, il y aura aussi une séquence avec les acteurs. Les entreprises calédoniennes sont extrêmement résilientes. Elles font un travail formidable malgré l'incertitude institutionnelle, les coups de boutoir qui sont pris au niveau du Congrès de la Calédonie. Je crois que le monde économique mérite d'avoir une séquence avec le président.
Les annonces dans le domaine de l'énergie, dans le domaine énergétique, transition énergétique, mais aussi c'est un aspect fondamental, on le sait, pour les usines métallurgiques. Est-ce que c'est par ce biais-là que l'État pourrait cette fois-ci venir en aide aux entreprises métallurgiques calédoniennes?
Oui, c'est ce qu'il faut. Enfin, on travaille avec les trois métallurgistes, avec l'État et avec les provinces sur cette question depuis maintenant plusieurs années. On voit que le coût de l'énergie, c'est un élément très important au niveau de la compétitivité. Quand Gérald Darmanin était venu il y a quelques semaines de ça en Nouvelle-Calédonie, il avait annoncé quelque chose qu'on soutient et enfin qui avait été proposé aussi dans le cadre du projet des loyalistes, que la Nouvelle-Calédonie serve de lieu d'expérimentation des SMR. Les SMR, c'est les mini réacteurs nucléaires et que on puisse avoir une énergie qui soit décarbonée et compétitive. L'idée, c'est de s'inscrire dans ce qui est fait en métropole, d'avoir un mix en développant de l'énergie renouvelable, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans en Nouvelle-Calédonie avec l'installation massive de photovoltaïque. On est sur du stockage aussi d'énergie, mais le fait de pouvoir intégrer une partie en énergie nucléaire pour ce qui reste en puissance garantie, enfin, si je peux m'exprimer avec des termes plus techniques, ce serait un bon signal à la fois pour les métallurgistes en matière de décarbonation et de compétitivité de l'industrie métallurgique, mais aussi au niveau stratégique pour la France d'avoir une présence importante dans le Pacifique.
Il serait un peu révolutionnaire pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir ce type d'énergie.
Oui, totalement. Enfin, quand je suis parti à Vivatec il y a un mois de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs entreprises qui s'occupent de ces SMR. C'est une vraie révolution pour l'industrie à la fois nationale mais aussi calédonienne d'avoir des petites unités, des petits réacteurs nucléaires qui, par le passé, étaient des grandes centrales compliquées. Là, on a des mini-réacteurs nucléaires qui seraient une vraie réponse aux problèmes calédoniens de compétitivité du nickel.
Au chapitre des problèmes financiers de la Nouvelle-Calédonie, Dieu sait s'ils sont grands, conjoncturel, il y a la demande de transformer les prêts AFD en subventions. Là aussi, est-ce que le chef de l'État pourrait apporter une réponse? Est-ce que vous l'attendez à l'occasion de cette visite ou est-ce que ce n'est pas de son niveau?
Ouais, je pense que je pense qu'il rentrera pas dans ce détail-là. Enfin, je pense qu'il annoncera des grands investissements stratégiques. C'est le niveau du chef de l'État, pas que ça soit. Enfin, Gérald Darmanin est pas forcément un bon niveau, mais la question des prêts AFD, c'est quelque chose qui est fortement porté par Nicolas Metzdorf au niveau national en tant que député. C'est quelque chose qui soulagerait les finances de la Nouvelle-Calédonie. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse aussi travailler sur le fait de peut-être d'un allègement de la dette des PGE qui ont été faits aux entreprises calédoniennes qui pèsent aujourd'hui sur leur trésorerie et qui apporterait peut-être plus de souffle à l'économie calédonienne. Mais ça, c'est des discussions qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'un accord global avec l'ensemble des parties prenantes.
Alors Emmanuel Macron passe deux jours en Nouvelle-Calédonie, il part ensuite au Vanuatu, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des escales qui ont également un sens pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la place de la Calédonie dans la stratégie indo-pacifique de la France, en fait.
Oui, un des éléments majeurs du discours du président, quand il se déplacera, ça sera l'axe indo-pacifique. C'est en Nouvelle-Calédonie, la première fois où il l'a évoqué quand il était venu en 2018. Ce déplacement au Vanuatu, ce déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est des déplacements qui sont historiques et qui ancrent la France dans le Pacifique. On est le dernier territoire européen dans le Pacifique suite au Brexit. Et le fait que la France se réaffirme dans ces zones-là qui avaient été par le passé laissées aux Chinois, hein. Enfin, pour être clair, aujourd'hui on a un ambassadeur de France au Vanuatu qui fait un travail formidable de réimplantation de la France et de réaffirmation de la France. Gérald Darmanin y était allé il y a quelques mois de ça également. Là, le fait que le président de la République se déplace au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pour dire que la France est présente dans le Pacifique et compte fortement affirmer son rôle de puissance dans l'axe Indo-Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie qui ne peut que nous satisfaire.
Alors, c'est dit du président de la République en Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr ce qui va très largement dominer l'actualité dans les jours qui viennent. En marge de cette visite présidentielle, je voulais également votre avis sur le rapport rendu par la mission du Sénat sur l'avenir institutionnel. Beaucoup d'entretiens, beaucoup de rencontres, beaucoup de travail. Cette mission qui souhaite un accord global et consensuel qui puisse être validé par une réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça apporte des éléments pour la recherche d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, et même sur la méthode à suivre?
Oui, tout rapport est bon à prendre. Et le Sénat joue un rôle important et va jouer un rôle important dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années sur la Calédonie. On a des gens qui connaissent extrêmement bien la Calédonie, qui ont élaboré ce rapport. Et je crois que le fait de réaffirmer que des discussions à trois doivent se tenir le plus rapidement possible pour sortir de l'incertitude ne peut être qu'une bonne chose.
Vous y croyez, vous, à ces trilatérales à la fin du mois d'août?
Oui, je suis toujours très positif. Donc j'ose espérer que les indépendantistes se rendent compte qu'ils ont le même intérêt que nous à ce que la Nouvelle-Calédonie avance et que leur population puisse trouver du travail, avoir de la visibilité et avoir le coût de la vie qui baisse et d'avoir des vraies perspectives d'avenir.
Avec quel calendrier après un accord global, un accord sur le statut avant les provinciales ou après les provinciales?
Non, il le faut avant. Enfin, c'est important qu'on puisse avoir un véritable accord. Ensuite, s'il n'y a pas d'accord, ben, on ira au provincial et puis chacun défendra son projet. Vous savez, on a arrêté d'être dans l'attente des indépendantistes. Si les indépendantistes viennent et qu'on discute, c'est une bonne chose. La Calédonie ne va pas arrêter d'avancer parce que les indépendantistes ne veulent pas avancer. Ils viennent, c'est bien. Ils ne viennent pas, ben, tant pis. Comme diraient certains.
Avant ça, vous le disiez, il y a l'échéance des sénatoriales, le 24 septembre. Vous êtes déjà engagés les uns et les autres dans la campagne. La donne commence un peu à se dessiner, mais on imagine que d'ici septembre, il y aura sans doute d'autres candidatures. Vous, c'est déjà un objectif et c'est déjà un élément de votre mobilisation?
Oui, c'est un objectif qui est capital. Enfin, on ne peut pas se permettre d'avoir un sénateur indépendantiste qui siège au Palais du Luxembourg. Donc on a été très... au Jardin du Luxembourg et Palais du Luxembourg. On a été très clair. Nous, on a Sonia Baquès qui est candidate avec Gilles Brial comme suppléant. Donc donc c'est une candidate Renaissance. On a dit que pour assurer le fait qu'il y ait une majorité non indépendantiste au Sénat et qui projette une union des non-indépendantistes pour les provinciales, il fallait soutenir le candidat qui était investi par les Républicains, en l'occurrence Pierre Frogier. Donc on est dans cette ligne-là, d'avoir deux candidats non-indépendantistes qui siègent au Sénat. Je crois que c'est important, justement, vous citiez la réforme constitutionnelle. On ne peut pas se passer d'avoir des sénateurs qui sont pleinement investis dans le combat non-indépendantiste.
Cette union en Calédonie loyaliste, rassemblement qui débarquait en métropole, fait une alliance entre Renaissance et les Républicains, ça passe bien aussi au niveau national, il n'y a pas de
problème. Ça n'a pas l'air de poser problème. Sonia Abacas l'a dit, c'est des choses qui sont actées avec le président de la République, qui sont actées avec Gérald Darmanin. Et moi, je suis convaincu que ces sénatoriales sont le début des provinciales. Et donc, que pour les provinciales, pour retrouver un gouvernement non-indépendantiste et un congrès non-indépendantiste, ça passe par l'union des non-indépendantistes. Et l'union des non-indépendantistes, elle doit débuter dès aujourd'hui si on veut être crédible aux provinciales.
Christopher Gégès, merci d'accepter cette invitation. Encore un mot, le président de la République arrive lundi soir, on l'a dit. Il tiendra un discours mercredi, place des Cocotiers, sera un discours
historique.
Et en plus historique, dites-vous, vous appelez évidemment, j'imagine, les Calédoniens, vos militants, enfin les militants des loyalistes, mais au-delà de tous les Calédoniens à venir l'écouter.
Ouais, tous les Calédoniens, parce que le président de la République s'est fortement engagé sur la Calédonie. Il a, au cours de son premier mandat, organisé les trois référendums, il nous a aidés sur le Covid, il nous a aidés au niveau économique. Donc il y a un moment, il faut savoir dire merci en Calédonie, c'est un bon moment de lui dire merci, et c'est surtout un bon moment de lui montrer que la Calédonie est profondément française. Et donc moi j'invite les Calédoniens à venir massivement sur la place des Cocotiers. On distribuera des drapeaux bleu, blanc, rouge aussi pour être présent. Il y aura des images qui seront faites au niveau national, et je pense qu'au-delà de montrer au président de la République que la Calédonie est pleinement française et fière de l'être, il faut le montrer aussi à la nation à travers les médias nationaux qui seront là. Il y a les discours près du président de la République, il y en a peu en Calédonie. On se souvient du discours de Jacques Chirac, on se souvient du discours de Nicolas Sarkozy à la Reine du Sud. Je pense que chacun se souviendra du discours d'Emmanuel Macron le 26 juillet. Qu'on aime ou pas Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui s'adresse aux Calédoniens, et je pense qu'il faut que chacun aille l'écouter.
Et il y aura effectivement de très nombreux journalistes métropolitains qui seront là pour couvrir ce voyage et donc diffuser des images. Christopher Gégès, merci d'accepter votre invitation.
Merci à vous.
À quelques jours de cette arrivée du président de la République.
C'était le magazine Transparence, présenté par Elisabeth Noir.